À seulement 2 jours de l'élection présidentielle américaine, Hillary Clinton et Donald Trump tentent de séduire les électeurs de la Floride, un État clé dans la course à la Maison-Blanche. Pour le moment, les sondages donnent une mince avance à la démocrate Hillary Clinton. Après la Floride, Donald Trump se rendra en Caroline du Nord, au Nevada et au Colorado.
She has no energy. You know, you need energy to help this country. Like, for instance, I'm going to be doing 5 or 6 of these every day. You need energy here, folks. She goes home and she goes to sleep.
Hillary Clinton se rendra en Pennsylvanie.
How many of you have already voted? Okay, so that means you've got time to get everybody else to get out and vote, right? Now, did any of you see the debates? I spent 4.5 hours standing next to Donald Trump on that stage, proving once and for all that I have the stamina to be president of the United States.
On le sait, ces deux candidats à la présidence américaine, ils sont très différents. Leur stratégie de campagne ne se ressemble pas du tout non plus. Les explications de Stéphanie Schuller.
Celle qui veut être la première femme à diriger les États-Unis mobilise tout ce que le pays a de glamour et de réputation pour arriver à la Maison-Blanche. Hier, des superstars Beyoncé et Jay-Z ont surchauffé la salle avant l'apparition de la candidate démocrate dans l'Ohio. Aujourd'hui, elle sera aux côtés des chanteurs Katy Perry et Stevie Wonder. S'agit-il encore de meetings électoraux ou plutôt de gigantesques concerts de musique? Peu importe, c'est le message qui compte, votez. Tous les grands ténors démocrates se retroussent également les manches. Cela fait 3 jours que Barack Obama n'est plus à la Maison-Blanche mais sillonne les États clés. Idem pour le vice-président Joe Biden qui était hier dans le Wisconsin. Bernie Sanders, très populaire auprès de l'électorat jeune, était lui dans l'Iowa. Comparé à tout ce que la campagne Clinton mobilise de célébrités et de ténors démocrates, son adversaire paraît presque isolé. Rares sont les républicains qui montent sur scène avec Donald Trump qui essaie de retourner la situation à son avantage. Je n'ai pas besoin d'amener Jennifer Lopez ou Jay-Z. Pas besoin de piano ni de guitare, je suis ici tout seul, a-t-il lancé devant une foule de 13 000 personnes en liesse.
Stéphanie Schuller pour RFI. Le ministre australien de l'Énergie et l'Environnement, Josh Frydenberg, a dit à Sky News que peu importe le résultat de l'élection américaine, la priorité de l'Australie et que l'Alliance NZUS sur la sécurité demeure forte.
We also strongly support a forward presence by the United States. We have seen some tensions in the South China Sea and on the Korean Peninsula. We have the US Marines rotating through Darwin. It is important for our region, for Australia, that America is fully engaged.
Le ministre australien de l'Énergie et l'Environnement, Josh Frydenberg. Malheureusement, l'arrivée de l'été en Australie veut aussi dire le retour des feux de brousse. Des pompiers sont en train de combattre des feux en Nouvelle-Galles du Sud, le vent et les températures chaudes rendant leur travail difficile. Plus de 1100 pompiers ont passé la journée d'hier à combattre 65 feux de brousse dans l'État. Des alertes d'urgence ont été données pour des feux près de Cessnock et Port Stephens avant d'être levés. Le leader de l'opposition, Bill Shorten, a dit que son parti a beau vouloir lutter contre les passeurs, il est contre la proposition du gouvernement de bannir à vie les migrants qui tentent de venir en Australie par bateau. La semaine dernière, le premier ministre Malcolm Turnbull a annoncé un projet de loi pour bannir à vie les migrants adultes arrivant par bateau, incluant ceux qui sont déjà à Manus Island et Nauru. Ils ne pourraient même jamais venir en Australie en tant que touristes ou citoyens d'un autre pays. Bill Shorten a dit à ABC que cette proposition était ridicule.
And we certainly agree that people who come here by people smugglers shouldn't be allowed to settle here permanently. But this latest proposal from Mr. Turnbull is just ludicrous on face value. It doesn't seem to make any sense to say that someone who becomes found to be a genuine refugee, who then becomes a Canadian or American citizen, couldn't visit Australia in 40 years' time as a tourist or a teacher. That's just over the top.
Le leader de l'opposition, Bill Shorten. Des résidents d'Eltham, en banlieue de Melbourne, ont répondu à une manifestation anti-réfugiés en recouvrant le lieu de la manifestation de millions de papillons en papier. Cette installation artistique, faite de 8000 papillons, a été installée pour signifier que ces résidents ne supportaient pas la manifestation du groupe qui s'oppose à la venue de réfugiés dans la région. Le commandant Russell Barrett de la police du Victoria a dit que les manifestations se sont passées dans le calme.
We're generally happy with the outcomes of today's rallies. There was no violence, no injuries, no arrests. We're comfortable with the manner in which the two groups conducted themselves, and we'd like to thank the local community for their understanding and patience and the impact it had on them.
Le commandant Russell Barrett de la police de Victoria. L'Association australienne des travailleurs sociaux affirme que le gouvernement doit mieux comprendre les complexités de l'adoption. Alors que le National Adoption Awareness Week débute aujourd'hui, l'association explique qu'une adoption sur 10 échoue. Elle demande au gouvernement d'augmenter le financement et les ressources pour pouvoir mieux supporter les enfants et les familles. La présidente de l'association, Karen Healy, a dit à SBS que les conséquences à long terme de l'adoption doivent être considérées.
Adoption is not a solution for all children, and that we need to be careful around how adoption occurs, that adoptions can break down, and we really need to make sure that children are able to maintain their relationship with their family of origin and their community of origin, as well as with the new family into which they're adopted.
Karen Healy, présidente de l'Association australienne des travailleurs sociaux. De retour à l'international maintenant. En Turquie, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser des manifestants près des bureaux d'un journal d'opposition dont les employés ont été arrêtés à Istanbul. Quelques heures avant la manifestation, les autorités turques ont arrêté 9 employés du journal ainsi que des fonctionnaires pro-kurdes. Des dizaines de milliers de supporters pro-kurdes sont descendus dans les rues en Grèce, en Suède et en Allemagne pour protester contre ces arrestations. La communauté kurde de Melbourne a aussi organisé une marche. Mahmoud Karaman du Kurdish Democratic Community Center of Victoria a dit à SBS que les leaders mondiaux doivent agir.
Crowds, people very upset and people also angry because so far world big powers, stakeholders, they just condemning Turkey, but they're not taking any action. We need action, not just the words. We need action from Australian government, from European government, from USA, to stop this big data. Otherwise, it will be very dangerous for world community as well.
Mahmoud Karaman du Kurdish Democratic Community Center of Victoria. En Corée du Sud, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Séoul pour demander la démission de la présidente Park Geun-hye. C'est qu'on accuse la présidente d'avoir laissé son ami de longue date, Choi Soon-sil, interférer dans les affaires du gouvernement. Choi Soon-sil, qui n'a pas de titre officiel au gouvernement, aurait révisé des discours de la présidente, eu son mot à dire sur des politiques domestiques et même choisi des ministres. Le docteur en sciences politiques Antoine Bondaz nous explique quel impact ont ces manifestations pour le pays.
Les chiffres en soi ne sont pas forcément historiques. Donc on a apparemment 100 000 personnes au maximum sur une population de 50 millions d'habitants. 50 millions de Sud-Coréens, donc on n'est pas non plus sur une manifestation monstre. Ce qui est important par contre, c'est surtout les manifestations au sein des partis en réalité. Et notamment au sein du parti conservateur, le parti Senuli, des hommes politiques qui ont été historiquement relativement proches de la présidente Park Geun-hye et qui petit à petit ont tendance à la lâcher et à l'abandonner. Alors par contre, ce qui est vraiment important, ce n'est pas tant la manifestation, mais que la défiance au sein de l'opinion publique est en fait l'effondrement total de la popularité de Park Geun-hye. C'est-à-dire que la population sud-coréenne n'a plus confiance en sa présidente et il va donc être extrêmement difficile désormais pour la présidente de gouverner pour les mois à venir jusqu'à la prochaine élection présidentielle.
Le docteur en sciences politiques Antoine Bondaz au micro de RFI. En République démocratique du Congo, l'UDPS, c'est le parti d'opposition, a appelé hier à un rassemblement à Kinshasa contre le président Kabila, qui semble s'accrocher au pouvoir. La manifestation a été interdite par les autorités et la police a été massivement déployée. On écoute le reportage de Sonia Relais.
Il y a maintenant les policiers, ici c'est à la résidence de M. Tien Tshisekedi, et on a envoyé des policiers pour venir nous intimider.
Des militants du DPS en colère, on est bien loin de l'heure du début du meeting, et les policiers se sont installés trop près à leur goût du domicile de leur leader, et plus ces militants sont nombreux. Ces militants ne le savent pas encore, mais la police a pour consigne de disperser les rassemblements de plus de 10 personnes, consigne officielle. Au fur et à mesure de la journée, camions, pick-up, le quartier où loge Étienne Tshisekedi est quadrillé. Et quand une des patrouilles de la MONUSCO passe...
Vous êtes là et vous ne faites rien. Il faut que la MONUSCO sécurise la population pour que la manifestation ou bien le meeting ait lieu. On n'est pas là pour combattre ou bien pour faire les accrochages. Nous voulons l'alternance, nous voulons que tout change.
Le secrétaire général de l'UDPS estime, lui, que la mission onusienne a bien fait son travail hier, mais qu'elle doit accroître les pressions sur le gouvernement pour permettre une ouverture de l'espace politique et l'alternance démocratique dans le pays.
Sonia Rollet pour RFI. Un coup d'œil à la météo avant de passer au sport, où on entendra entre autres le nouveau numéro 1 mondial de tennis. Donc, aujourd'hui à Perth et Adélaïde, c'est un maximum de 25 degrés, à Melbourne 21, Hobart 17, Canberra 20, Wollongong 24, à Sydney et Newcastle 25 degrés, à Brisbane et Cairns 31 degrés, et à Darwin, c'est 34 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 6 novembre. À deux jours de l'élection présidentielle américaine, Hillary Clinton et Donald Trump tentent de convaincre les électeurs. Le leader de l'opposition, Bill Shorten, est contre le projet du gouvernement de bannir à vie des migrants qui tentent de venir en Australie par bateau. Et Andy Murray devient le joueur numéro un mondial de tennis.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench